ce texte la première parole de Jésus que nous connaissons à l'âge de 12 ans. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être dans les choses de mon Père? Cette parole est vraiment la clé. Vous voyez là une clé, ça c'est la clé pour ouvrir le temple. C'est la clé qui nous ouvre à connaissance de Jésus. C'est la clé qui nous ouvre la compréhension de tout l'Évangile. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être dans les choses de mon Père? Alors j'ai traduit littéralement, les choses. Je ne sais pas comment c'est traduit dans ta Bible, Alain. Ne saviez-vous pas que...
Je dois m'occuper des affaires de mon Père.
Alors vous voyez la traduction là. Ne saviez-vous pas qu'il me faut m'occuper des affaires de mon Père? Intéressant aussi comme traduction. Littéralement, c'est être dans les choses. Être dans les choses de mon Père. Ça éclaire toute la vie de Jésus, ça éclaire toute notre façon de vivre la foi en Jésus. Nous croyons en Jésus. Et lui, il est tout le temps occupé des intérêts de son Père, de ce que veut son Père. Tout le temps, depuis tout jeune, nous le voyons, à 12 ans déjà, c'était quelque chose qui dominait, l'intérieur de son âme, être aux choses de son Père. Et c'est pour ça qu'il est resté dans le temple. À cette fête de Pâques, à l'âge de 12 ans, il est resté dans le temple. Ça veut dire que le Dieu que les Juifs adorent dans le temple de Jérusalem, c'est le Père de Jésus. Ça, c'est très important. Le Dieu d'Israël, c'est le Père de Jésus. Toute sa vie, il l'a construit en étant intéressé de ce que son Père désire. Vous voyez ? C'est pour ça que dans le texte de Tite, je vous ai dit que l'apôtre Paul va nous donner le fondement de toute la morale qu'il développe. Il développe tous des conseils, comment se comporter, les hommes, les femmes, les esclaves, les uns avec les autres, les autorités, quel doit être notre rapport avec ceux qui gouvernent. Voilà, tout ça, il le développe, mais ça, c'est pas quand les apôtres nous donnent des conseils de morale, ce n'est pas des commandements qu'on doit essayer de faire par nous-mêmes. Il faut d'abord se connecter à ce désir que Jésus a de faire les choses de son Père, de manifester sur la terre ce que son Père veut. Eh bien, c'est notre vocation. Ce n'est pas d'abord d'être des bonnes personnes. Ce n'est pas ça notre vocation. Bien sûr, on doit montrer. Pourquoi je dis ça? À cause de ce que texte de l'apôtre Paul, notre vocation, c'est que ce Père vers lequel Jésus est totalement tout le temps tourné, que ce Père, ce qu'il veut, ça devienne visible sur la terre. Voilà le sens de tous nos efforts pour mener une meilleure vie. C'est pas pour être mieux que les autres. Ce n'est pas pour me réconforter, moi. Ah, moi, je suis quelqu'un de bien. Ah, regardez tout ce que je fais de bien. Regardez tout l'argent que je donne aux pauvres. Regardez-moi. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Dans l'épître de Tite, je reviens à ce texte de Tite. Pour que nous attendions la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tout le bien que les chrétiens font, ce n'est pas pour qu'on les regarde. C'est pour que le monde réalise que nous regardons à quelqu'un qui va venir dans sa gloire, la gloire, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Christ Jésus. Vous avez remarqué cette expression ? La gloire de notre grand Dieu. Nous entendons les kamikazes islamistes crier au moment de se tuer en tuant les autres, ils crient « Allahu Akbar, Dieu est grand !» Nous, on croit que Dieu est grand. Mais ce n'est pas la grandeur que les êtres humains pensent. Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, nous l'avons ici à l'âge de 12 ans. Il est déjà le grand Dieu. À l'âge de 12 ans, il est dans le temple. Et ceux qui l'écoutent, qui connaissent la Bible, donc les maîtres, c'est les maîtres, c'est pas les maîtres qui vous apprennent à calculer, à faire des comptes, c'est les maîtres de l'écriture, ceux qui ont étudié toute leur vie la Bible, il est capable de montrer à ces gens une sagesse par rapport au texte biblique qui les étonne, ils sont époustouflés. Cet enfant de 12 ans, après, on nous dit, il accompagne ses parents et il leur est soumis. Pendant 30 ans, on ne sait rien de sa vie, sauf cet épisode ici. Jusqu'à l'âge de 30 ans, on ne sait rien. On sait la naissance, on sait qu'elle a été emportée en Égypte pendant quelques années par ses parents, qu'il est revenu avec ses parents s'installer à Nazareth, et à l'âge de 12 ans, que ses parents ont eu un choc dans leur vie, parce qu'ils étaient restés au temple. Un choc qui les a remplis d'angoisse. L'angoisse a commencé. Ils ont vécu des 3 jours d'angoisse. Nous apprenons aussi à travers cet épisode de la vie de Jésus à 12 ans, que sa famille fonctionne comme les Arabes, comme les Africains, en famille élargie. Pendant un jour, on ne s'inquiète pas. Marie et Joseph ne se sont pas inquiétés que leur enfant n'était pas avec eux. Oh, il est avec un cousin, une cousine, il doit être avec les voisins, il doit être dans la caravane avec des oncles ou des tantes. Mais au bout d'un jour, ils ne l'ont toujours pas vu. Vous voyez qu'on vit en famille élargie, peut-être comme à Madagascar aussi. Hein. Si on a plusieurs pères, hein, les oncles, ça peut être des pères lorsque le père est absent. Voilà, ça c'est la famille élargie, c'est contraire à notre société occidentale individualiste où chaque parent s'occupe de son propre enfant et surtout on laisse personne interférer là. Ça c'est pas comme ça la société de l'époque. C'est très intéressant ça, que Jésus a vraiment eu une famille et qu'il était soumis à ses parents. Et je ne peux pas m'empêcher de faire cette réflexion dans ma tête. Marie et Joseph savaient qu'il était le Fils de Dieu. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Avec tous les textes qu'on a lus à Noël, c'était clair pour eux. Leur enfant, c'est le Fils de Dieu. Et pourtant là, ils ont l'air tout surpris. C'est qu'il était tout normal aussi. C'est un bébé tout normal. J'ai un enfant tout normal, comme tous les enfants. Alors comment ça se fait que lui, qui connaît le mieux la parole de Dieu, il est soumis à ses propres parents, soumis donc aussi à toute la religion qui lui enseigne, parce qu'ils l'ont emmené au culte, à la synagogue, tous les Shabbats. Ils l'ont emmené, les grandes fêtes, on va au temple à Jérusalem. Ils l'ont fait, ils suivaient, ils écoutaient, ils étaient soumis. Ses parents, ça ne leur est pas monté à la tête le fait qu'ils sont les parents du Fils de Dieu. Ils ne se sont pas séparés du peuple juif. On aurait pu l'imaginer. Vous savez que à cette époque-là, il y avait des juifs qui s'étaient séparés des juifs parce qu'ils suivaient le maître de justice et ils se réunissaient entre eux, ils refusaient même d'aller au temple et dans les synagogues avec les autres. Ils étaient mieux que les autres. On aurait pu penser que Marie et Joseph fassent leurs propres assemblées, leurs propres églises. Non. Ils sont au milieu du peuple. Dieu est au milieu de son peuple à travers Jésus, soumis à ses parents. Dieu est au milieu des Juifs. On a eu ici un pasteur qui s'appelait Bernard Covio, maintenant il s'appelle Abraham, parce qu'il s'est converti au judaïsme. Ça peut te paraître très bizarre que chrétien devienne juif. Mais qu'est-ce que Jésus a été pendant 30 ans si ce n'était un simple juif parmi les Juifs, soumis à ses parents? Et il ne se distinguait pas des autres juifs. On ne nous dit rien, à part ça, ce que nous avons aujourd'hui comme texte. On ne nous dit rien. Donc Jésus est totalement occupé des affaires de son Père et en même temps, il est vraiment un juif parmi les juifs. Et en même temps, il est ça, un juif parmi les juifs. Quand on médite ça, on se demande comment, pendant 2000 ans, on a pu dire que nous, les chrétiens, nous sommes maintenant le peuple de Dieu, les juifs ne le sont plus. Tout prétexte qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Et Dieu, il a la suite dans les idées, ce qu'il a promis aux juifs, il le fera. Et nous avons entendu dans Ésaïe, ce texte qui parle de deux tribus disparues, Zabulon et Nephtali. C'est deux des 12 tribus d'Israël totalement éliminées par les Assyriens. Et le prophète Ésaïe doit dire une parole sur ces deux tribus qui n'existent plus à son époque. Voilà ce pays maintenant plongé dans les ténèbres, mais une lumière va resplendir. Parce qu'un enfant nous est né. Jésus accomplira cette promesse. Les Juifs ont reçu des paroles de Dieu dans lesquelles ils espèrent, même quand on ne voit pas la réalisation de cette parole. Marie, on nous dit qu'elle a gardé ces événements dans son cœur. Et on nous dit en même temps que Marie et Joseph n'ont pas compris. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Si ce n'est pas le moment où Dieu nous le fait comprendre. Moi, j'ai longtemps cherché. Je suis fils de pasteur, j'ai fait le catéchisme, j'ai tout fait, les études de théologie. Je cherchais à comprendre, mais quand le Saint-Esprit nous le fait comprendre, c'est ça le moment. Mais ce n'est pas inutile. Ce n'est pas inutile de lire la Bible. Jamais. Mais parce que c'est ce que faisait Marie. Elle gardait ces événements. Le mot « événement », je vous signale, en hébreu, c'est aussi le mot « parole ». C'est le même mot, « devarim ». Donc, elle gardait les paroles de Dieu. Les événements, ce sont des paroles de Dieu. Moi, je pense qu'il faut prier, être vigilant pour comprendre le temps que nous vivons en ce moment. Un temps absolument terrible avec cette épidémie. Qui fait tourner la tête aux gens, qui les rend fous. Certains deviennent fous avec ça. Ou sombres dans le désespoir. Eh bien, l'espérance dans la Bible, c'est Georges Bernanos qui dit ça. L'espérance, vous allez la trouver au bout du désespoir. Parfois, on cherche à se rattraper à des branches parce qu'on se sent tombé dans le désespoir. On ne sait plus où trouver de l'aide. Et on cherche à droite, à gauche. On embête les uns et les autres. Mais personne ne peut nous sauver d'un certain désespoir. Personne. Même le meilleur ami, même mon conjoint, ne peut pas me sauver d'un certain désespoir. Parce qu'il y a des désespoirs où c'est Dieu qui vient te rencontrer. Ça, c'est Georges Bernanos qui le dit. L'espérance, c'est une victoire sur notre propre désespoir. Et comment elle vient, l'espérance? par la parole de Dieu. Les trois jours d'angoisse que Marie et Joseph ont vécu, c'est prémonitoire des trois jours de ténèbres que vont vivre les disciples quand Jésus sera mort. Pendant trois jours, il n'est plus là. Il n'est plus là. On a beau chercher notre tête, notre intelligence, notre cœur, il n'est plus là. Disparu. Et puis la lumière vient. Le très ressuscité mange avec eux. Nous allons manger le repas que Jésus a pris après sa résurrection, si pas seulement avant sa mort, après sa résurrection. La parole de Dieu a retenti dans ce monde, frères et sœurs. Cette parole, nous ne l'avons pas inventée. Qui peut avoir inventé une histoire pareille? Il faut être fou pour écrire des choses pareilles, ou alors tout est vrai, mais d'une vérité. Il y a ici, là, derrière nous, cette phrase qu'on ne voit plus en entier. C'est Jésus qui dit ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est Jésus. Un enfant qui est le grand Dieu d'Israël. Un enfant que nous ne pouvons comprendre que si nous avons entendu sa parole où il dit « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être occupé des choses de mon Père ?» Comment pourrions-nous douter que sur la croix, c'est vraiment notre pardon qui est venu, que sur la croix, c'est vraiment le sang qui vient nous purifier. Sur la croix, c'est vraiment le Saint-Esprit qui coule jusqu'à nous et qui nous donne la présence de Dieu. Comment pouvons-nous douter de cela si nous retenons vraiment cette parole que si ça a eu lieu, c'est parce que Jésus est tourné vers son Père. Et en étant tourné vers son Père, il fait tout ce qu'il faut pour nous, pour que nous soyons sûr d'être sauvé, pas maintenant seulement. Maintenant et jusqu'au jour où il va venir dans sa gloire. Et c'est cette venue que nous attendons, parce que tout ce que nous allons faire de belles œuvres, comme dit Paul à Tite, nous avons à faire de belles œuvres. Ce n'est pas pour nous qu'on nous admire, c'est pour que les gens découvrent que nous, nous attendons la manifestation du grand Dieu. La gloire du grand Dieu d'Israël est notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.